Je vais maintenant passer la parole à Caterina Pasqualino-Régis, qui va nous parler de la création comme façon de faire face à la misère, et qui va, enfin, d'après ce que j'ai bien compris, qui va nous expliquer comment cette création transforme la réalité en devenant aussi un acte collectif. On est à nouveau dans la communauté. Donc, Caterina Pasqualino-Régis est directrice de recherche au CNRS, au Laios, et elle est également cinéaste. Et elle a travaillé notamment sur les gitans flamencos d'Andalousie, mais elle a également fait un nouveau terrain anthropologique. Donc, elle va nous parler sans doute maintenant sur un dispositif performatif de collaboration, de mise en scène et de reconstitution.
Voilà. Oui, merci. Donc, après, d'abord, j'ai travaillé en Andalousie, ensuite, j'ai travaillé aussi à Cuba, mais je vais vous parler d'un film qu'on vient de terminer. C'est un film qui est qui, au départ, c'est une petite commande dans le cadre d'un projet européen, l'artiste Ayel Dolor, que j'ai réalisé avec Chiara Ambrosio, que j'ai rencontré à Goldsmith University. Je ne l'ai rencontré pas par hasard. C'est dans le cadre de séminaires sur des écritures expérimentales animées par Chris Wright à Goldsmith University. Donc, nous avons décidé avec Chiara, quelque part, de chercher quelqu'un avec qui refaire le monde. Ça, c'était notre entente au départ. En fait, je me rends compte à quel point ces films est quelque part pour moi, je me dis, une sorte d'aboutissement d'une démarche que je me suis appliquée à poursuivre, mais plutôt théoriquement, et que pour la première fois, je pense qu'il y a qui s'est faite, c'est une démonstration peut-être de ce que j'ai essayé de dire dans mes cours sur l'anthropologie de la performance et aussi dans des livres collectifs qu'on a fait, l'Experimental Cinema Anthropology avec Art Schneider et un livre qu'on est en train de publier avec Art Schneider et Bernard Muller sur les terrains comme mise en scène. Donc, d'une part, je vais dire que le propre de l'art n'est pas de se cantonner à une analyse de la société, mais de déborder des cadres sociaux, d'élargir les horizons conceptuels et de créer des situations inédites susceptibles de révéler la société sous un jour nouveau. Donc, pour faire cela, des artistes investissent les espaces publics et cherchent à susciter une réaction des spectateurs. Ces domaines d'action inhérents aux mécanismes artistiques performatifs intéressent l'anthropologie à plusieurs titres. Donc, je me suis intéressée à ceci. Je suis très sensible au fait que de considérer que les participants, les performeurs que les spectateurs ne sortent pas indemnes d'une situation de performance et que la performance induit à prendre en compte des aspects cruciaux, que toute performance se joue dans un espace total, que les spectateurs ou les artistes sont impliqués dans une spatialité commune, que la performance crée un hors-temps et que les protagonistes de cette performance jouent des postures en rupture avec les quotidiens. Donc, aussi, il s'agit de construire un objet davantage sur un principe de conversation que d'observation, comme l'a dit Fabien. Et donc, dans notre film, nous avons cherché des acteurs personnages avec qui concevoir les films. Donc c'est pour ça qu'on les pense comme une co-création, une construction et une expérience expérience partagée. C'est là que je vais parler. Je veux parler un quart d'heure parce que j'ai 10 minutes d'images à montrer parce que c'est essentiel. Donc j'ai peur de. Est-ce que vous pouvez me dire un quart d'heure ou 20 minutes? Voilà. Donc c'est une. Comment est. Elle a changé notre démarche. Il s'agissait donc d'une petite commande, comme j'ai dit. Quelque part, sur l'identité gitane, parce que c'était sur les gitans et la souffrance, moi étant spécialiste des gitans en Andalousie, parce que j'ai écrit des livres sur les gitans et les chants et la danse, et les flamencos. Les films est devenu autre chose parce que arrivé au Sacromonte, les quartiers typiques, les quartiers du flamenco. Et les personnes avec qui on a eu affaire, les artistes du flamenco, ils s'est cramponné à l'idée de gagner un peu d'argent et dans une production qui n'en avait pas. On a été catapultés du Sacromonte à un autre quartier des Grenades, le quartier de Caseria de Montijo, un quartier périphérique, où depuis 2007, la plupart des personnes au chômage, depuis la crise de 2007. Mais ce que je voulais dire, parce que le film est commencé sur quelque chose qui n'a pas été, mais c'est ça l'intérêt aussi que pour nous, est la forme libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé avec une idée complètement faite. Et le film s'est fait et un film qui s'est fait en train de se faire. Voilà, c'est un parcours. Nous cherchions à instituer un parallèle entre deux formes de résistance. Un jardin qu'on avait... qu'on avait repéré dans les Sacromonte, un jardin qui nous paraissait une forme de résistance parce que c'était un jardin dont son propriétaire c'était une résistance contre tous les restes du Sacromonte qui étaient devenus très touristiques, donc ces personnages qui nous paraissaient plus proches d'un flamenco dont on avait envie de parler et ces flamencos qui était une sorte de respiration les gitans et les chanteurs avaient une sorte de respiration que nous on mettait en comparaison avec ces jardins. Bon bref, un architecte ami nous a ayant compris que nous on était intéressés avec cette histoire des jardins nous amène et des gitans nous amène ailleurs. Nous amène ailleurs et nous amène à connaître ceux qui sont nos personnages, Antonio, Santiago et Oscar, qui ont quelque part refondé un monde. C'est de ça que je vais parler. Ont refondé un monde dans une sorte de barranco, une sorte de précipice qui se trouve en face de leur quartier périphérique. Ils ont résisté, ils ont réagi au fait que au chômage, ils ont occupé une terre qui était une décharge illégale et ils l'ont fait devenir quelque chose qui est quelque part un magnifique jardin, quelque part une sorte de paradis, mais un paradis à l'envers parce que ça se trouve au fin fond d'un ravin. Donc ces personnages avaient vraiment envie de dire quelque chose à travers ces films. Nous l'avons compris dans un premier temps quand Antonio nous a amené à Wiesnach. Wiesnach, c'est là où il y a les fosses communes, les fosses de la où sont ensevelis et pas déterrés depuis 37 les fosses des républicains tués par les franquistes. Et nos personnages, un de nos personnages, Antonio, est 65 ans, il est de famille Roja, toute sa famille a été tuée et se trouve ensevelie à Wiesnach. Donc, avec la caméra, après un après-midi très dense dans lequel il y a des conversations très fortes sur l'essence de la vie et de la et entre deux personnages qui sont très différents et très amis, Oscar, fils des familles des jésuites, et Antonio, des familles de Rojo. Et Antonio nous amène à Wiesnach. Antonio nous amène à Wiesnach et c'est là que nous comprenons à quel point tout ça s'est lié. Notre discours et sur la crise économique et les morts qui n'ont pas été déterrés à Wiesnach. Et Antonio, tellement ami de deux autres avec qui on refait un monde dans les barrancos de Caseria, n'avait jamais amené ses amis à Wiesnach. Donc Wiesnach qui se trouve seulement à quelques kilomètres. Donc on a eu un moment émotionnellement très très fort. Donc la caméra a agi comme catalyseur, comme a provoqué quelque chose. Et finalement, on était tous très émus et quelque chose s'est passé. À la limite, moi, j'ai pensé à certains films de Lanzmann où la caméra a vraiment un rôle est nécessaire pour que les choses soient dites. Et eux, ils l'ont senti comme ça. C'est ça, c'est à partir de là que le film a été conçu vraiment ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est arrivé la première fois, Santiago, qui est en fait celui qui est à la tête d'une petite association de chômeurs et qui a fait des grèves de la faim qui est vraiment les chefs quelque part de ces actions-là, nous a dit « c'est dommage que vous n'étiez pas là il y a une semaine parce que il y a une semaine, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, la procession de l'agua, la procession de l'eau. » C'est-à-dire, il nous dit que on était au beau milieu du mois de juillet, les potagers étaient assoiffés, il avait envoyé un Twitter, la force d'un Twitter, le pouvoir d'un Twitter, et il nous dit des milliers de gens sont venus pour amener l'eau à notre potager. Donc il faut savoir aussi que c'est des gens qui ont pris des contacts avec des activistes des Podemos, donc est compréhensible cette histoire. C'est quand même c'est symbolique. Comment ça devient? Bon, bref, donc il nous dit, vous pouvez aller contrôler, cherche, appelle Seferina de Canal Sur. Appelons Seferina de Canal Sur, qui nous dit, c'est pas vrai du tout. Finalement, oui, il y avait du monde, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Peut-être on pouvait les compter sur les doigts des deux mains. Donc, on était très déçus au départ. Et puis, on s'est dit, quand même, il y a eu quelque chose. Parce que même si c'était peu de gens, quelque chose s'est passé. Et on peut le voir sur les Twitter qui sont indélébiles. Et donc, on a dit... Mais c'était une sorte de boutade. On a dit, si la procession de... Faisons-la, nous, la procession de l'eau. Parce que nous, au départ, on avait pensé qu'on aurait pu organiser une sorte de reconstitution de quelque chose qui avait eu lieu. Mais finalement... Et donc, c'est ça qui s'est passé. C'est une sorte de film qui s'est construit sur... Après la fin, ce sera cette sorte des rituels inventés, mais qui est tellement pris en charge à un moment donné par eux, qui est très très fort. On était tous très très émus. Et alors, la plupart du film se passe dans ces fins fonds de potager où le but c'est aussi de construire les trois personnages en tant que personnages, mais aussi les personnages du potager qui est une matière vivante donc on est très proche on a des plans très très larges, très rapprochés sur, par exemple, sur les fruits et les tomates, sur la terre, la matérialité. Et puis, donc, il fallait faire donc, on va quelque part... comment ça s'est passé? Voilà, comment ça s'est passé, cette histoire? Et une histoire que... qui est d'abord c'est, on peut dire qu'il y a une histoire d'une géographie mythique, la construction d'une géographie mythique, parce que d'abord on fait avec eux une promenade, c'est une promenade dans laquelle on revisite des lieux mémoriels importants, et puis on refera cette promenade, mais cette fois dans un mode cérémonial. C'est ça qui se passe. On peut peut-être... Oui, je dirais quelques phrases à la fin des... Oui, on peut peut-être... Donc, je vous propose de voir deux petits extraits. Le premier, c'est du potager On ira à Wiesnach. Et donc... cette émotion-là, et puis les derniers petits morceaux de cette cérémonie. Évidemment, on ne pourra pas comprendre, parce que cette cérémonie qui est à la limite, c'est comme un funambule, c'est-à-dire que par moment, elle nous paraissait absurde, et puis à un moment donné, on a compris que c'était... qu'elle était juste. Donc il faudra le voir par la suite dans les contextes globaux d'un film qui dure une heure et demie. Donc voilà, c'est ça, peut-être ça paraîtra de façon abrupte, parce que c'est le seul moment un peu esthétiquement, alors que le reste est très documentaire. Donc voilà, c'est ça, c'est pour... Bon, peut-être on montre.
Oui, puis après vous ferez quelques commentaires en plus après. Parfait. Oui.
Si j'ai le temps. Il n'y a pas le son.
Il n'y a pas le son.
Merci. Donc là, c'est cette discussion entre Antonio et Oscar sur... Ah bon.
Il va nous remettre ça avec le son.
C'est une longue discussion, j'ai mis seulement une... Ah, par là. Oui, seulement un petit bout, mais dans laquelle vraiment c'est une confrontation entre ces deux générations qui n'ont pas vécu la même chose, mais qui peuvent à la fin se comprendre, parce que les fils, finalement, sont fiancés, les fils d'Oscar, fils des jésuites, et la fille d'Oscar et les fils d'Antonio, fils de Rojo, sont fiancés. Mais bon... Ça, c'est seulement un petit bout que j'ai choisi pour partir ensuite à Wiesnach pour des questions de temps.
algo habido terminado de criar. Que has ganado, que has conseguido la vida. ¿Te sientes un ganador?
No, triunfado.
¿Un triunfador te sientes en la vida?
Me siento realizado. No triunfador ni
realizado,
ganador.
Vale, pero triunfador es otro, yo qué sé. Si eso es un triunfo, que venga Dios en mi vida. Triunfo era a los abuelos cuando nos criamos con un puñado de harina de maíz y un puñado de harina de trigo.
Esa es la interpretación del dolor.
El dolor es lo que
uno puede
te estoy diciendo a ti, tío.
Interpretar por...
Que el dolor es lo que yo te estoy diciendo
por
a ti. El dolor de verdad que a mí me duele es el dolor que tengo en el corazón. Y ese no se cura con medicina. Eso no puede yo al médico y decirle, oye... No,
ya lo tienes que curar tú, contigo
y eso
mismo.
Sí, claro, eso ya me moriré con él.
Claro, con él, porque con yo, al ritmo que llevamos, no voy a conseguir ver...
Sí, lo verás.
Yo no voy a conseguir ver
sí, lo verás.
Que hay una ley de memoria histórica allí donde se eliminen ya los últimos coletazos del franquismo y esto termine toda la historia. No los hay ni los va a ver. Estamos hablando de levantar los muertos de las cunetas. Es algo que no es para risa, ¿eh?
No, no, risa no.
Tú no tienes ninguno de tus curas que le hayan pegado un tiro.
Sí,
hayan,
tengo...
Que le hayan enterrado.
Escopeta y pistolas enterradas también.
Claro, hombre.
Claro, en toda la familia.
Pues lo que te estoy hablando.
Aquí está el río debajo. Vaya a ver. Posiblemente fue por aquí, fue por donde pasearon a García Lorca, el último viaje que subió fue por aquí. Por esta carretera que vamos fue cuando llevaron a García Lorca la del café. Este mismo camino que estamos recorriendo nosotros lo recorrió Lorca. En la jurisdicción de Vizna. Pero eso dice, entre Vizna y Arpacá, mataron al ruiseñor porque quería cantar. Un ruiseñor es un pájaro pequeñito que canta de noche, que canta muy bien.
Que alguien que predica la verdad, alguien que predica y que está con el más humilde, con el más endeble, que se expone por defenderlo. Sería muy lamentable no entenderlo. Lorca es Lorca, como Lorca es único. Lorca, eso es como cuando nace un cantador grande, como Camarón, eso puede pasar como un poeta grande, eso pasa cada 500 años una vez. En este descampado próximo que te encuentro a la derecha, mete el coche. Ahí, en esa curvita que tienes ahí.
¿Sí?
Sí. Sí, ahí entra el coche perfectamente, lo dejo yo cientos de veces. Ponlo allí más dentro, allí a la sombra.
Dejaron los civiles.
Métete, no, aquí ni civiles ni nada.
Digo que lo dejaron los civiles.
Sí, aquí dejaban los, mírame, aquí dejaban los coches y de aquí para arriba empezaban a fusilarlo.
Antonio, Fernando, Juan, Miguel, Antonio, Juan, Francisco, Nicolás, Ángel, Pablo, José, Salvador y Miguel. Esta es la España negra que de la que yo hablo. Esta, por debajo. El que me dijo que se me estaban todos los muertos.
Esta es la que me pone triste.
Esto es muy triste.
Demasiado, ¿sabes? Demasiado triste.
Esto yo es que no entiendo cómo estos gobernantes, tanto tiempo que ha gobernado el Partido Socialista y no ha tenido la capacidad o no ha tenido los cojones de decir, bueno, vamos a levantar los muertos de las cunetas, vamos a levantar los muertos de las fosas comunes.
Lo que mira, la derecha fue quien cometió todos estos asesinatos. Fue la derecha, fueron los franquistas, pero ellos les importará un carajo donde estemos, pero cuando han gobernado un partido que está llamado socialista, obrero, y ha continuado las cosas como si aquí no hubiese pasado nada, pues no. Creo que aquí sí ha pasado algo y has de memoria recordarlo y has de memoria restituirle la verdad y decir que era gente que estaba luchando en contra del franquismo y a favor de la libertad, que por eso se encuentran aquí enterrados, porque tuviéramos una España mejor, porque tuviéramos un mejor salario, unos mejores trabajos. Por eso se encuentran nuestros padres y nuestros abuelos aquí enterrados y nuestras abuelas.
Esto te da un pellizco, digo, los huevos, es lo que te da. ¿Por qué tanta maldad?
Qué tristeza me llevo, qué tristeza me da, ¿ves? ¿Cómo puedo encontrarme en paz con mi familia si los tengo tirados de esta manera, aún sin reconocer, Dios mío? Me voy a morir, mi hijo no lo... Yo ya una vez que me muera yo, mi hijo, ya esto... Chico, pienso que van a seguir su vida, su historia, puesto que ellos no están preparados ni ellos han conocido nada de lo que yo estoy hablando. Ni he querido inculcárselo nunca a mi hijo para que no haya venganza, no haya odio entre nadie. Quizá haya cometido un error habernosle explicado a mi hijo de dónde somos, de dónde venimos y lo que queremos. Pero por la teoría de que nos hemos criado con otros revueltos, con gente que nos ha hecho daño y gente que vamos a olvidar y vamos a intentar, estas heridas no se van a cerrar nunca. Este capítulo de la historia de España no se puede cerrar.
El otro petit morceau. C'est pas possible?
Dicen que el huerto estaba seco. Dicen que la gente andaron por la calle, noche y día. Llegaron a la fuente de ahí nada más, al anochecer. Fuente de lágrimas, ojo que llora, agua de vida que baña pueblos, barrancos y la ciudad. Cogieron agua en botellas, garrafas, en las manos y en sus bocas, y partieron otra vez por la calle, entre tiniebla y luz. Pasaron por Vidna y Alfacar, donde murmulla la tierra inquieta. Los vieron pasar por las cuevas del Sacromonte, bajar por las calles empinadas del Albaicín, cruzar el paseo de los tristes al margen del río Darro y subir por la cuesta de los chinos hasta el cementerio. Era mucho y la noche oscura. Dicen que llegaron al huerto con la madrugada, bajaron por el barranco y se quedaron en la tierra, le dieron agua. Esperan todavía.
Dicen que el huerto está seco, que la gente andaron ahí por la noche y por el día. Hay fuente de la lágrima, hoy yo que
voilà donc cette cérémonie qui devient qui ces transporteurs d'eau sacrée qui rentrent dans une autre peau, une peau de possession. C'est-à-dire que lors du tournage, c'est quelque chose de performé et qui est ressenti. C'est-à-dire que c'est le moment était très très fort. Il s'agit donc de gens qui ne sont pas agriculteurs à l'origine, mais une rencontre extraordinaire qui s'est faite entre nous, les metteurs en scène, qui voulaient changer le monde avec un film, et eux qui voulaient changer le monde et qui ont pris le film quelque part. Ils sont des activistes, ils sont en réalité des poètes, des philosophes, parce qu'on ne le voit pas ici, mais dans le reste du film. C'est ça qui nous emportait aussi, de montrer à quel point ces gens avaient des choses à dire sur l'essence de la vie. Et pas seulement sur les tomates, et les tomates qui ne sont pas que des tomates. Et donc, l'effet, c'est que pour eux, c'est d'abord le fait de se voir dans une société où rien ne change, mais dans laquelle ils arrivent quand même à changer quelque chose, parce que les tomates ne sont pas que des tomates et qu'eux, au moins, ils agissent. Et puis, cette histoire très, très forte de Wiesnard et du potager. Ils sont tous les deux des barranques, des ravins. Et donc, cette importance symbolique de l'eau. Parce que l'eau qui vient de cette fuente de la Lagrima, où García Lorca a été tué, qui se trouve à côté de Wiesnard, et donc qui fournissait l'eau à Grenade, et qui, en fait, quelque part, il y a un lien entre ces deux terres, parce que, quelque part, et c'est clair dans les propos de Détroit, les corps des républicains tués nourrit les potagers de Caseria de Montijo. Donc, dans ce sens, c'est une création du monde de nos acteurs.
Merci vraiment beaucoup, Katharina, pour ce très beau travail et ce film qui touche à des sujets extrêmement importants. Je vais donner la parole maintenant au public. Vous avez sans doute quelques questions à poser. On a bien quelques minutes pour faire un petit débat, non? Oui, bon, voilà, très bien. Qui souhaiterait prendre la parole? Oui, Michel.
Merci, c'est passionnant. Je voudrais poser d'abord une question à Antoine Compagnon, ce qui nous dit de la relation, l'innovation, mais de la création et de la tradition ou pas, etc. Est-ce que ça ne fait pas penser un tout petit peu aux réflexions qu'on peut trouver à propos, non pas de l'art, mais de la science ?
Les deux.
La science. C'est-à-dire que des gens disent parfois la science progresse par rupture, invention d'un nouveau paradigme. D'autres disent oui, mais pour qu'un nouveau paradigme soit possible, il faut qu'il soit audible et que donc qu'on ne soit pas complètement dans la rupture. Enfin voilà, donc ma question c'est, est-ce qu'il est possible ou pas de naviguer entre ces deux registres ? Et puis j'ai une deuxième question qui concerne plutôt le rôle de l'État. Parce que je trouve ça très intéressant, ce que vous avez décrit. Mais est-ce que ça n'est pas très français ? Est-ce que nous ne sommes pas dans un pays dans lequel l'État considère que c'est son rôle de créer, par exemple, ces dialogues, ces doctorats, tout ce que vous nous avez décrit ? Voilà, donc ma deuxième question, ce serait un peu ça. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays où nous n'avons pas une tradition d'État aussi important, aussi interventionniste ? Voilà. Je ne pose pas de questions à propos de la troisième conférence, que j'ai beaucoup appréciée aussi, donc je la reçois comme ça. Je fais juste peut-être un petit parallèle avec ce qui nous a été dit hier soir par Richard Sennett, à propos de la relation entre la rue et le théâtre, enfin, parce qu'il y a quand même aussi chez Richard Sennett cette idée de que l'interaction doit être possible, simple, directe et performative, comme vous avez dit. Donc voilà, c'est un vague commentaire, rien de plus, parce que je crois aussi qu'il faut savoir écouter et regarder sans nécessairement poser des questions.
Oui, en un mot, parce qu'on a peu de temps, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas partisan de la théorie des deux cultures, de C.P. Snow, je crois que ça nous a fait beaucoup de mal, et je pense en effet que, j'ai évoqué à une ou deux reprises le fait que je suis au milieu d'un colloque sur l'histoire des idées au Collège de France, qui a lieu hier et où je vais retourner dans un moment, en effet, dans cette histoire des idées qui est bon, qui a pu recevoir beaucoup de définitions et qui est souvent confuse. S'il y a quelque chose d'important, c'est bien qu'il ne faille pas séparer culture scientifique et culture littéraire. Et justement, trouver, à travers peut-être l'histoire des idées, comment les mouvements se produisent de l'une à l'autre. Donc oui, je pense qu'on peut rendre compte et qu'il y a des problèmes du même ordre qui se posent. D'ailleurs, j'ai évoqué Simondon à un moment. Il y a des problèmes du même ordre qui se posent entre le déplacement, disons, des paradigmes ou des modèles littéraires lorsqu'il peut y avoir de vraies ruptures, de vraies instaurations, et puis le mouvement d'un certain nombre de modèles scientifiques. Oui, oui.
Alors, est-ce que c'est très français ? Oui, ce qui est très français, c'est bien sûr qu'on a une politique publique, qu'on a toujours pensé la politique en direction du public. Donc il y a une politique culturelle publique, elle est, faut-il dire qu'elle est volontariste ? Elle est en tout cas revendicative, elle pose des actes, en effet. Je dirais presque que soyons un peu plus français que nous ne le sommes, parce que ça, il faut en être fier. Mais parallèlement, je peux vous répondre, c'est pas du tout français, c'est mondial. C'est mondial, c'est un phénomène absolument mondial où nous sommes en fait très à la traîne. Mais les deux positions ne valent pas. Oui, pourquoi je donne les deux ? Parce que moi, j'en tiens une troisième. Mais nous sommes très à la traîne. Justement parce que les autres pays, en particulier le continent américain du nord au sud, a toujours pensé l'art dans l'université. Ça, oui. ça s'est trouvé imbriqué. Et ça, c'est la clé de tout. Ça l'était au Moyen-Âge. Les arts libéraux, enfin, l'art n'a jamais été un corps étranger pour l'université. Il y a toujours eu une tentative de greffe. Et quand je dis qu'on est un peu en retard, c'est que notre situation, donc ce clivage, cette bipolarisation université-école d'art, est un des problèmes. Et on a intérêt à regarder comment font les autres, en particulier en Amérique du Sud, où il se passe des choses passionnantes. Mais vraiment, il y a tout un terrain incognita ici qu'on ne connaît pas. Il se passe là-bas, dans la relation aux arts, à la transmission, à la formation, des choses absolument exceptionnelles. Et soyons français en ceci que nous pourrions un peu écouter l'autre. On ne va pas à l'étranger forcément pour dire ce qu'est la France, mais pour écouter. Je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment écouter.
Oui, peut-être un mot sur ce point, puisque dans le cadre du regroupement auquel nous appartenons pour le moment, qui s'appelle PSL, nous avons eu la création de ces doctorats, puisque dans PSL, il y a les écoles d'art. Donc, on a été, en effet, mêlés à ces discussions avec des hésitations. Hein, non bien, sans hésitation, bien. Qu'est-ce que...
Mais vous l'avez fait.
On l'a fait. Mais en effet, pourquoi faut-il un doctorat ? Et alors, en effet, il y a beaucoup d'écoles d'art... Bon, puisque je connais bien Columbia où j'y suis, il y a la School of the Arts. Mais la School of the Arts, elle délivre plutôt des diplômes style master. Voilà. Et ça ne va pas jusqu'au doctorat. Donc là, il y a effectivement des discussions sérieuses à avoir sur la nécessité. Mais on l'a fait pour le moment. Hein. Mais vous avez évoqué les problèmes que ça peut poser de définir l'objet. J'avais une autre petite remarque. J'étais surpris par votre référence à la page de gauche. La page de gauche, ça n'existe plus dans le monde numérique. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de page de gauche. Et je dois vous avouer qu'il y a très très longtemps que je refuse qu'on me donne des impressions qui ne soient pas recto verso. Quand j'étais à la Sorbonne, quand on me donnait des thèses d'État qui faisaient 800 pages, je les refusais si elles n'étaient pas recto verso. J'étais étonné par votre réflexion sur la page de gauche.
C'est une réflexion sur le XXe siècle.
C'est une réflexion sur le passé.
Voilà. Hein, ouais, page
nous ne sommes plus dans un monde de page de gauche.
Tout à fait. Merci d'avoir appelé le doctorat sacre, qui est une chose exceptionnelle, vraiment.
Toutes les pages sont de droite, si vous voulez.
Toutes les pages sont de droite.
Ça
ne
fait pas.
Ou du centre.
Alors, moi, peut-être, je vais réagir quand même à votre intervention, parce que moi-même, hier, j'étais un peu dubitative par rapport à l'intervention du Sénat. Et c'est vrai que mon intervention a à voir dans le sens que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les plus démunis, en fait, ils... Ils peuvent nous enseigner plein de choses. Ils sont les vrais philosophes et il faut les écouter autrement. Et que souvent, les chercheurs cherchent à faire des catégories des gens et donc cherchent, se posent un certain nombre de questions et pas d'autres à un certain type de gens. Donc là, vous n'avez pas pu le voir, mais ces trois personnages, ils parlent de la planète Mars, ils parlent des molécules, ils se permettent d'aborder des sujets qui, évidemment, parce que nous, parce qu'on a eu ce type de discussion. Donc, et moi, j'avais une hésitation par rapport à l'intervention d'hier, parce que je ne sais pas, je ne peux pas comment le démontrer, mais moi, je ne crois pas que les plus démunis puissent pas avoir du plaisir à rentrer à un théâtre organisé à l'occidental, c'est complètement séparé de l'espace extérieur et complètement tourné autour de la scène, sur la scène. C'est vrai que il y a aussi une question de pas seulement d'espace, d'espatialité à prendre en compte, peut-être, c'est aussi la question de la temporalité. C'est vrai que les théâtres populaires ou les théâtres balinais, plein de théâtres du monde qui ne sont pas occidentaux, c'est des théâtres qui commençaient les matins et terminaient les soirs ou les jours d'après. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a mais le fait qu'une certaine catégorie de gens ne soit pas capable de ça, j'arrive pas à être d'accord. Et je voulais, si je peux me permettre, réagir à votre intervention, parce que malheureusement, je ne suis pas d'accord complètement, c'est-à-dire que j'ai des doutes. Je me demande pourquoi les artistes qui veulent dire le monde, être dans le monde de façon différente et pas avec l'écriture, doivent se plier à écrire des thèses d'État. Des thèses de doctorat. Je trouve que ça peut... Les risques de tout ça, c'est d'amener une sorte de homologation dans laquelle si on demande un certain type de gens qui, par exemple, sont en train de faire des études d'art, de lire d'abord Foucault, Deleuze, Barthes, de lire tous les auteurs qui sont à la mode dans les facs de sociologie, d'anthropologie. Et au lieu de les laisser libres, par exemple, d'avoir d'autres... Alors, et ça produira un discours et une manière d'écrire qui est exactement celle des chercheurs. Or, les chercheurs eux-mêmes ont envie d'aller ailleurs. C'est ça, les paradoxes. On se trouve, les chercheurs en sciences sociales, à un moment où on a envie de dire autrement. On s'est rendu compte que les théories ont leur limite. Et que donc, il faut aller vers la littérature, vers l'art, pour dire autrement. Alors, si vous allez dire aux artistes que bien, il faut qu'ils s'émoulent et qu'il faut que... Alors, ça ne va pas.
C'est exactement l'inverse que j'ai dit.
Ah bon? Alors, ça va bien. Non, moi, je sais ce qui s'est fait dans les écoles d'art, même pas à Paris, parce que je suis d'accord, ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Je ne sais pas si mondial, mais européen, c'est sûr. Parce que moi, je parle des écoles d'art à Londres, et je peux vous dire qu'ils demandent à chaque fois aux artistes, aux jeunes artistes, de se justifier avec des auteurs de sciences sociales.
Prenons juste l'exemple de Sacre. Sacre est exactement l'antithèse de ce que vous dites, c'est-à-dire que ça n'est pas un rabotage, une homogénéisation et une espèce de formalisation neutralisante du travail. C'est au contraire un geste singulier, puisqu'il y a une œuvre, deux, un texte à la forme libre. Ils appellent un portfolio. Donc il n'y a absolument aucune, si vous voulez, aucune... prise autoritaire comme ça d'un modèle surplombant, c'est au contraire, comme je l'ai dit, des prototypes. Donc on est exactement dans le champ de l'art et du parler autrement. Je comprends votre inquiétude, hein, ça fait... Et c'est vrai qu'au début,
les enseignants à l'université de pas vouloir dire, vouloir se justifier. Même...
C'est ce que j'ai dit, il y a deux options. Il y a ceux qui pensent que la justification est une chose inutile et vaine, et puis il y a ceux qui, à un moment donné, en ont besoin. Antoine Vitez, s'il se met à écrire...
Il y a les critiques, les
volumes. les 8 volumes de son œuvre théorique, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont le besoin de le faire. Mais vous avez un Jean-Marie Patte ou qui n'a jamais écrit une ligne.
C'est voilà. Ça, moi, les deux. J'ai dit qu'il faut garder
ouvert,
la...
Laissons ouvertes les deux hypothèses.
Voilà, alors on est d'accord.
Bon. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Bon, de toute façon, on peut continuer à discuter autour d'un café. Je pense qu'on a une dizaine de minutes pour prendre un café. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup pour vos interventions absolument passionnantes. Et pour les ponts, en fait, entre les interventions.